OK, on va continuer notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus à Michée, donc la première partie de Michée. Je regardais ce soir avant de partir de chez nous combien il nous restait de livres. En coup qu'on va avoir fini Michée, il va nous rester 6 livres de l'Ancien Testament et on a fini l'Ancien Testament. Ça avance très bien. Alors, comme on le fait à chaque fois, la première partie de l'étude d'un livre, on fait toujours la même chose, on regarde l'arrière-plan. Le but principal du livre, son plan, les thèmes majeurs qu'on va trouver dans le livre de Michée, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de Michée. Alors, l'arrière-plan du livre de Michée. Michée vient d'un village de la plaine de Juda. Il se soucie des ouvriers agricoles de son temps, car ils sont opprimés et exploités. Il dénonce la nation pour la corruption qui s'étale partout. Juda viole constamment son alliance avec l'Éternel, même si ses habitants continuent d'observer les rites religieux. Il s'approprie les biens d'autrui par la violence, recouvre les dettes par la force. Les prophètes et les sacrificateurs sont corrompus. Les chefs de la nation pervertissent la justice. Sorcellerie et paganisme sont pratiques courantes dans le pays. Les balances fausses et la fraude sont fréquents dans les affaires. Les relations au sein de la famille sont brisées et cela entraîne des conséquences dévastatrices. Avec le cœur rempli d'amour pour son peuple, Michée avertit la nation et ses chefs que le jugement les frappera. La corruption spirituelle et l'injustice sociale sont les signes d'un peuple qui s'est détourné du Dieu vivant, son Dieu, le Dieu des alliances passées. Malgré l'ampleur des péchés du peuple, le Dieu vivant est remarquable par sa miséricorde et son pardon. Dieu punira, mais il pardonnera aussi. Michée présente la grâce divine comme un puissant stimulant à la repentance. On va regarder l'auteur. Le nom Michée est la forme abrégée d'un mot qui signifie « qui est comme l'Éternel ». C'est le nom de celui qui est consacré à l'Éternel, le Dieu incomparable. Le nom du prophète cadre parfaitement avec le caractère du personnage. Dieu est tout pour lui. Il a une conception élevée de sa sainteté, de sa justice et de sa compassion. À en juger par son écrit, l'homme est une forte personnalité de jugement calme et plein de bon sens, d'un cœur tendre mais fidèle. Il rend grâce à Dieu pour ses qualités. Michée est natif de Moreshet Gat, un village à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Le bourg était bâti à la rencontre des collines avec les plaines côtières de Juda. L'indication de son lieu de naissance distingue ce prophète d'un autre du même nom, Michée, fils de Jimla, qui exerça son ministère un siècle plus tôt, du temps d'Akab, roi d'Israël. Michée ne se serait pas engagé dans ce ministère exigeant et astreignant s'il n'avait pas été persuadé d'être appelé à cet office par Dieu. Alors, à la page 3, ceux qui ont les notes, je vous ai mis un tableau qui nous aide à situer l'époque du prophète par rapport à la captivité, les rois du royaume du nord et les rois du royaume de Juda dans le sud, avec les différents prophètes qui agissaient à cette époque-là. C'est très intéressant quand on veut comprendre le contexte historique du monsieur. Donc, la date de composition et le contexte historique. Le prophète Michée exerce son ministère sous les règnes de trois rois de Juda: Jotham, Akaz et Ézéchias. Il remplit donc l'office prophétique au moins pendant 17 ans. Il vit après les prophètes Jonas et Amos, et il est contemporain aussi d'Osée et d'Ésaïe, qui ont commencé leur ministère quelques années plus tôt. L'arrière-plan historique et politique du livre de Michée est sensiblement le même que celui des premières sections de la prophétie d'Ésaïe. Même si Michée n'est pas aussi habitué à la vie politique de la capitale. Cela s'explique facilement. Il vient de la campagne, alors qu'Ésaïe est de la ville. Michée commence son ministère une dizaine d'années avant l'invasion assyrienne et la captivité du royaume d'Israël au nord. Bien que l'essentiel de sa prophétie concerne Judas, elle inclut également de sévères mises en garde au royaume du Nord, dont Samarie est la capitale. Tout au long de son ministère, la puissance croissante de l'Empire assyrien constitue une menace pour Juda. Comme tous les autres prophètes, Michée montre que la sécurité nationale ne s'obtient pas par des moyens politiques, mais par la repentance et la dépendance spirituelle de Dieu. Deuxième point qu'on va regarder, le but principal du livre de Michée. La situation morale, sociale et spirituelle des deux royaumes est déplorable. Mensonge, infidélité, dissension familiale, immoralité, injustice sociale, oppression, violence. Les riches sont insatiables. Ils s'emparent des maisons des pauvres et chassent les femmes de leur foyer. Les chefs se font donner des pots de vin. Les prêtres et les prophètes enseignent pour de l'argent. L'idolâtrie règne à Samarie. Michée dénonce courageusement ses péchés. Il rappelle les bontés de Dieu dans le passé, pour amener le peuple à la repentance et le prévenir du danger qui le menace. En même temps, il veut encourager les pauvres et les opprimés à regarder à Dieu. Le Seigneur est juste, il ne laissera pas les injustices se perpétuer impunément. Un jour, il délivrera son peuple de l'humiliation et fera régner la justice et la paix. Alors, comme je l'ai fait à toutes les leçons, vous avez au troisième point le plan du livre, et il y a deux sections, le plan succinct. Donc, vous avez les divisions, les principales divisions du livre, avec les principaux sujets qu'on traite dans les différentes divisions, les locations où ça se situe, l'action de tout cela, et l'époque. Alors, c'est très intéressant quand on veut étudier sérieusement un livre, qu'on prenne ça et qu'on regarde ça en détail. Donc, vous avez le plan succinct et vous avez aussi tous les détails, comment qu'on lira tout cela avec les numéros des versets. On ne retiendra pas tout cela, mais c'est intéressant d'utiliser ces feuillets-là, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, lorsque vous lisez le livre puis que vous voulez avoir une compréhension plus exacte de l'ensemble du livre et des leçons que le Seigneur veut enseigner à travers tout ça. Le quatrième point, c'est les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre de Michée. Donc, un des thèmes, c'est que Dieu juge et punit la désobéissance. Un autre thème, c'est que Dieu est amour et fidèle à ses promesses. Un autre thème, Dieu est la justice. L'idolâtrie, l'avarice et la convoitise, le manque de miséricorde et la religion ritualiste vide. Quatrième thème, Dieu désire la miséricorde, l'humilité et la justice. Quelques versets clés. Michée, chapitre 3, verset 8. « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. » Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Bien sûr, c'est le verset que les Juifs savaient que le Messie viendrait au monde à Bethléem. Et Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée, chapitre 7, verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Je rappelle que ceux qui étaient ici, qui avaient, quand on a eu l'Assemblée générale, le pasteur qui était venu à cette occasion-là, l'Américain, avait prêché sur le livre de Michée. Et moi, je me souviens très bien de certains passages, c'est drôle, ça m'a frappé. Moi, je regarderai l'Éternel. Autrement dit, il est en train de nous dire que c'est le livre que les dirigeants spirituels étaient découragés de voir le désastre qu'ils voyaient, qu'ils observaient chez le peuple. Et il est arrivé à la conclusion que si tu te fies uniquement à regarder l'état du peuple, l'état spirituel du peuple, comme leader spirituel, tu te décourages complètement. Mais c'est pour ça qu'il arrivait avec Michée 7:7 qui disait « Mais moi, je regarderai à l'Éternel. » Ça veut dire que quand tu es découragé, il n'y a pas d'autre chose à faire que arrêter de regarder les problèmes puis de lever les yeux vers l'Éternel. Sinon, tu ne passes pas à travers. Sixième leçon, les leçons pour le peuple de Dieu. Lors d'une période de grand bouleversement, Dieu promit que son royaume durerait éternellement et que le Messie rachèterait et délivrerait son peuple. Dieu nous appelle à l'adoration authentique, rechercher la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Septième point qu'on va regarder, c'est la place et la présence de Jésus-Christ à l'intérieur du livre. Donc, bien entendu, le fameux chapitre 5, verset 2, la prophétie sur le lieu de naissance du Messie. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Cette prophétie concerne le Messie promis. Même les dirigeants juifs infidèles au temps de l'incarnation pouvaient identifier son lieu de naissance. Quand Hérode le Grand demande aux principaux sacrificateurs et aux scribes où le Christ doit naître, il se réfère à Michée 5:2 et lui répond que c'est à Bethléem. On voit ça dans Matthieu chapitre 2, versets 4 à 6. Dieu agit de façon mystérieuse. Les parents qu'il choisit pour le Christ, donc son père et sa mère adoptifs, vivent à Nazareth. Mais dans la providence divine, ils doivent se rendre à Bethléem pour s'y faire recenser. C'est là que Jésus naît, conformément à la prophétie. Le fait que ses parents terrestres habitent Nazareth et que Jésus lui-même grandit dans cette ville incite plusieurs à douter au début qu'il est vraiment le Christ annoncé. Quand Philippe annonce à Nathanaël qu'il a rencontré le Messie et le présente comme Jésus de Nazareth, fils de Joseph, son interlocuteur répond « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Cette question ne procédait pas de préjugés, mais de la prophétie. Il n'y avait aucune prophétie messianique associée à Nazareth. Philippe répond avec bon sens « Viens et vois ». Alors, on voit dans le chapitre 4, versets 1 à 3, on parle du royaume glorieux du Messie. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Bien qu'adressant ces messages de jugement et d'espérance au peuple d'Israël et de Juda de son temps, Michée utilise des mots qui transcendent la crise historique immédiate. Ce faisant, il entraîne ses lecteurs vers un avenir plus lointain. Le prophète décrit un temps où les peuples de la terre viendront adorer l'Éternel. Le monde connaîtra alors une paix universelle, sans la moindre menace de guerre. Comme Isaïe, Michée prophétise la captivité à Babylone, mais va plus loin qu'Isaïe en annonçant le retour et la reconstruction du temple. L'accomplissement de la prophétie de Michée, chapitre 4, versets 1 à 3, se fera par étapes. D'abord, le retour des exilés et la reconstruction du temple, puis la première venue du Messie avec ses souffrances, sa mort et sa résurrection, aboutissant à son entrée dans le sanctuaire céleste. Enfin, le retour du Messie, quand il paraîtra en gloire, et créera de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Michée prédit un grand réveil spirituel parmi les nations païennes. Elles se tourneront vers le Dieu d'Israël et voudront goûter aux bénédictions accordées aux Israélites fidèles. Les Israélites formaient le peuple élu de Dieu sous l'Ancienne Alliance. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Romains 9, versets 4 et 5. Les chrétiens d'origine païenne ont une dette de reconnaissance envers eux. La grande promesse faite à Abraham prévoyait la bénédiction de toutes les familles de la terre. L'Église de Jésus-Christ, au grand complet, comprendra des rachetés d'origine israélite et des rachetés d'origine païenne. On lit dans Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10, « Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Quelques applications qu'on peut faire de cette brève étude-là. La première, Michée est un exemple de courage. Il dénonce le mal présent dans toutes les classes de la société. Il dénonce les faux prophètes mercenaires, exerçant leur métier par amour du gain, s'adonnant au spiritisme et consultant les démons pour découvrir l'avenir. Il dénonce aussi avec hardiesse les nombreux péchés du peuple, ceux des princes et ceux des sacrificateurs. Que le Seigneur nous donne un pareil courage. Deuxième application, la vision de Michée alla très loin dans l'avenir et il parla de la suite des temps. Il décrivit sous de vives couleurs la grande restauration future, même pour nous. Les deux venues du Messie sont prédites et Michée termine sa plaidoirie passionnée en faveur de la repentance. Comme lui, n'hésitons pas à faire connaître autour de nous la glorieuse personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et troisième et dernière application, le nom de Michée signifie « Qui est semblable à l'Éternel? » Plus nous avancerons dans la connaissance de notre grand Dieu, plus nous réaliserons qu'il est incomparable et absolument insondable. Implorons le Seigneur de nous révéler davantage sa gloire. Que notre grand et glorieux Seigneur soit éternellement béni et adoré. Amen. Amen.